Bonjour Lionel Nakache.
Bonjour Eric Delvaux.
Faut-il rappeler que vous êtes neurologue à la Salpêtrière, chercheur en neurosciences de la conscience, et votre dernier livre explore une nouvelle théorie sur notre conscience, dans la continuité des travaux que vous avez toujours menés sur notre subjectivité. Cette fois, vous allez explorer ce que vous appelez notre cinéma intérieur, projection privée au cœur de notre conscience. C'est d'ailleurs le titre de votre livre paru chez Odile Jacob. Avant cela, professeur, un mot sur la saturation qui pointe dans les hôpitaux français, les services de réanimation face à la déferlante annoncée des cas de contamination. Comment est-ce que vous vous accommodez de cela à cette grand hôpital, géant hôpital qu'est la Salpêtrière à Paris?
Oui, bien c'est une évidence que nous sommes très préoccupés par ce qui se passe. Alors moi j'ai une vision microcosme, c'est-à-dire que je suis pas réanimateur d'ailleurs, hein, je suis neurologue comme vous l'avez rappelé, mais j'explore beaucoup de malades qui sont hospitalisés en réanimation. Donc je travaille beaucoup avec mes collègues, notamment avec la réanimation neurologique, mais d'autres. Et très rapidement, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, par rapport à cet été où évidemment le nombre de cas avait considérablement diminué, on voit apparaître et être admis en réanimation de plus en plus de patients, à tel titre que les capacités sont quasiment pleines. Les services de réanimation de la Salpêtrière, tous compris, il y avait, je crois, dans le dernier mail de la cellule de crise, une ou deux places sur une soixantaine de lits à peu près. Donc effectivement, c'est beaucoup plus préoccupant.
Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir laisser des lits pour les nouveaux malades du Covid, et donc au détriment d'autres pathologies à la Salpêtrière?
Pour l'instant, la logique qui prévaut, c'est d'essayer de maintenir on pourrait appeler ça une double offre de soins, c'est-à-dire de pouvoir évidemment prendre en charge les patients qui ont besoin de soins de réanimation du Covid, mais également de pouvoir continuer à assurer les soins urgents des patients non-Covid. Évidemment, c'est un truisme, mais c'est très important de le dire. Et peut-être un éclairage, parce que beaucoup de gens se questionnent sur les mesures politiques, les conséquences politiques, les libertés les droits aux libertés individuelles, etc. Et tout ça, c'est un vrai questionnement qu'on peut avoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas oublier de vue que pour nous, en médecine, la vraie question qui justifie toutes ces préoccupations, c'est que nos collègues réanimateurs, d'habitude, ils travaillent avec un principe, en réalité, de tri des patients. Mais le tri, en général, il doit s'effectuer non pas par rapport aux limites des ressources, mais en fait aux limites du patient. C'est-à-dire, est-ce que pour un patient donné, est-ce que ça vaut la peine pour lui de lui infliger quelque chose de très invasif?
Est-ce que vous changez votre prisme du tri, donc, aujourd'hui?
Absolument. Et dans le tri existe toujours, c'est pas quelque chose. Mais simplement, je vous dis qu'il s'oriente. C'est-à-dire qu'à la période très dure, là, en avril, il y a eu quelques semaines, je pense, où justement, moi, les signaux que j'avais de nos collègues réanimateurs et des collègues même jeunes, c'est de dire, on est en train de plus pouvoir appliquer humainement nos critères. C'est-à-dire qu'on commence à appliquer des critères de restriction en fonction des ressources et non pas de la logique orientée sur le patient. Et c'est ça le problème, en tout cas la dimension médicale du problème, c'est ça.
Quand vous parlez des ressources, ce sont quelles ressources?
Ça veut dire le nombre de patients. C'est-à-dire qu'en réalité, en clair, vous êtes un réanimateur de garde, on vous propose quelqu'un, vous vous dites est-ce que ça vaut la peine pour ce patient, étant donné sa situation, les chances qu'on puisse l'aider, l'améliorer, de lui faire subir quelque chose qui est invasif, un séjour en réanimation. Et là, le changement de critère, c'est il ne me reste plus de place, donc est-ce que c'est ce patient que je prends ou un autre? Et donc cette logique-là, ce changement de raisonnement dans le tri des patients admis, c'est ça pour nous la vraie préoccupation, c'est de continuer à pouvoir pratiquer une médecine avec des critères humains qui sont ceux qui sont ceux qui devraient être opératoires.
Et vous estimez que vous pourrez dans un avenir proche continuer à assumer cette double mission?
Alors je l'espère, c'est ça évidemment l'objectif, c'est de se donner les moyens pour le faire. Ensuite, une fois de plus, là ça sort un peu de mes compétences parce que je suis pas réanimateur ni épidémiologiste.
Mais il n'empêche, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs qui sont en train d'écouter France Inter ce matin? On entend un peu tout et n'importe quoi, il y a des gens qui rouspètent, qui disent que le couvre-feu c'est pas bien, que si on reconfine, c'est une catastrophe, etc. Oui. Qu'est-ce que vous répondez?
Moi, je dirais des choses très banales, mais que les choses à peu près démontrées, c'est évidemment que le port du masque, c'est très important, les distanciations, les frictions hydroalcooliques. Dans le service que je dirige, un service de physiologie à la Salpêtrière, et j'ai imposé le masque à un moment donné où on me disait non, c'est pas la peine, ça sert à rien, où on a eu quelqu'un de l'hygiène qu'on m'a envoyé. Et donc, on voit bien que le masque sert à quelque chose. Maintenant, tout le monde en est convaincu. Donc, ces choses-là sont évidentes. Ensuite, le reste, il y a une dimension qui est au-delà de la médecine. Ce n'est pas une politique purement médicale. Mais en tout cas, les données médicales avec lesquelles la société doit faire, ce sont celles-ci.
Il y a cette lapalissade hier du Premier ministre à l'hôpital Nord de Marseille. Il dit que la meilleure façon de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Ça vous inspire quel commentaire? Est-ce qu'on peut ne pas tomber malade?
Pas vraiment de commentaire.
Même si on prend pas mal de soins.
Mis à part de dire que la partie qui est entre nos mains, d'essayer de minimiser ce risque, en sachant que ce risque, on peut pas le supprimer. J'ai des collègues qui prennent de grandes précautions, qui sont tombés malades.
Il y a beaucoup de médecins qui sont tombés malades.
Je connais pas les chiffres exacts, mais oui.
Alors revenons à votre livre, Lionel Nakache, Cinéma intérieur, projection privée au cœur de notre conscience, paru aux éditions Odile Jacob. Cette métaphore cinématographique cinématographique pour nous faire comprendre que notre cerveau ne cesse de produire des fictions hors réalité. Nous passons donc notre temps à ne pas voir ce que l'on a sous les yeux ?
Et c'est pratiquement ça, c'est qu'en fait, ce que nous voyons de ce qu'il y a dehors, si on veut parler comme ça, ce n'est pas directement ce qu'il y a dehors. Donc quand je vous vois, ce n'est pas directement, on pourrait dire, vous qui êtes en dehors de moi que je vois, mais ce à quoi j'accède, ce dont je prends conscience, c'est une représentation, une construction active, une sorte d'image subjective de vous. Alors, cette image, je ne vous hallucine pas, j'ai beaucoup d'éléments pour penser que vous êtes vraiment là et que je suis là
a
aussi.
A priori, oui.
Voilà, mais néanmoins, ce que je perçois de vous, et c'est ça l'objet de ce livre, c'est qu'il y a en réalité de la fiction, c'est-à-dire de l'œuvre de composition active dans les images que nous percevons, non pas lorsqu'on commence à rêver, mais même lorsqu'on ouvre les yeux sur le monde, en réalité, on a cette forme de... J'ai pris cette métaphore du cinéma, et on verra peut-être pourquoi, mais il y a beaucoup de points communs qui nous permettent de la justifier.
Mais, oui, mais est-ce que vous voyez d'Éric Delvaux, est-ce que ça correspond à ce que moi j'en vois ? Est-ce qu'on est tous égaux face
voilà, c'est
à
ça la grande question. C'est qu'évidemment, lorsque tout va bien, lorsqu'on est en bonne santé, que notre cerveau fonctionne bien, eh bien on peut dire que ce qu'on appelle ces fictions, ces œuvres de composition, elles sont très bien contraintes par le réel. Et donc, in fine, ce que vous allez voir d'Éric Delvaux et moi, ça va être quasiment la même chose. Mais dans ce quasiment, il y a quelque chose qui n'est pas exactement la même chose. Et dès lors qu'on rentre dans ce détail, on va voir comment, effectivement, nous n'allons pas voir la même chose exactement, vous et moi, d'un même objet ou d'un même individu, d'une même scène visuelle que l'on regarde.
Donc, le peintre Magritte était prémonitoire avec son tableau représentant une pipe sous lequel il avait écrit « Ceci n'est pas une pipe ».
Absolument.
Nous n'avions que l'illusion de la pipe.
En tout cas, que la représentation de la pipe. Voilà, il y a ce pas de côté. Et ce pas de côté, il faut être honnête. C'est pas les neurosciences ou ma théorie qui l'invente. Cette idée-là, elle est présente dans la philosophie depuis très longtemps. Si on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais si vous, la distinction de Kant, par exemple, entre les choses en soi, le noumen et le phénomène, et de dire que nous n'accédons jamais aux choses en soi, mais à travers une couche de phénomène, eh bien, cette idée-là, qui est une idée philosophique, on peut dire qu'on lui donne chair aujourd'hui, en regardant et en explorant comment, effectivement, ces représentations du monde naissent en nous. Et une des idées qui, pour moi, est très importante, parce que tout le monde, maintenant, c'est une idée, c'est une sorte de truisme ou d'idée très à la mode, de dire nous sommes des créateurs de fiction, nous sommes des êtres de fiction, au cinéma, dans les romans, dans le storytelling, dans le marketing, partout. Et ce qui m'intéressait, c'est de montrer que la fiction, c'est pas uniquement des fictions complexes, sur des croyances élaborées, etc. Mais la fiction, l'œuvre de fiction, elle commence dès lors que vous ouvrez les yeux. En fait, c'est pour ça que j'ouvrais ce livre en parlant de préquel, parce que je fais des ponts entre le cinéma et ce domaine-là.
Il faut expliquer ce que c'est.
Le préquel, vous savez,
qui vient du britannique préquel.
Oui, c'est-à-dire
une histoire avant l'histoire.
Oui, c'est tous ces films, par exemple. Il y a aussi des romans, mais des films qui viennent raconter la généalogie d'un personnage qu'on croit connaître, notamment pour les super-héros, Superman, Spider-Man, Star Wars, etc. On va vous raconter ce qui s'est passé avant. Eh bien là, c'est un peu la même chose, c'est ce livre, c'est le préquel des fictions, c'est-à-dire effectivement que nous sommes des êtres de fiction, mais pour bien comprendre pourquoi nous avons besoin de fictionnaliser le monde et comment nous le fictionnalisons, eh bien il faut revenir aux origines de la fiction, et ces origines, elles commencent dès lors que vous ouvrez les yeux sur le monde.
Mais on enregistre moins d'images par seconde que le cinéma.
Alors oui, un peu moins, effectivement, mais le premier point commun, vous l'avez dit, c'est important, c'est que quand on va au cinéma, la vraie magie du cinéma, c'est qu'au cinéma, quand vous êtes dans une salle obscure, vous percevez un film qu'on ne vous a pas montré. C'est-à-dire qu'on vous a montré 24 images par seconde, et ce que vous percevez, c'est pas une succession stroboscopique, mais c'est un film continu. Ce qui veut dire que votre esprit-cerveau invente ce qu'il y a entre deux images qu'on vous a pas montré, en fait. Ce qu'on vous a pas montré entre les deux images. Eh bien, le point de départ du livre, c'est que depuis 40 ans, à peu près, on a des éléments extrêmement sérieux et extrêmement solides, et c'est ce que je livre également, pour montrer qu'en fait, tout cela se passe au cinéma, même lorsqu'on n'est pas au cinéma. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de vous voir, mon esprit-cerveau, si on veut l'appeler comme ça, saisit des images du monde extérieur, non pas de manière continue, mais de manière discrète, successive, et qu'il y a en moi une machine qui invente, qui remplit le vide et qui donne
lieu...
Qui cherche une vérité, quand même. Exactement, une signification subjective. Et c'est ça pour moi la fiction. C'est quelque chose qui fait sens à mes yeux.
D'ailleurs, il faut aller voir sur Internet, et vous le rappelez dans votre livre, cette courte vidéo qui date de 1944, Heider Simmel Video, ça dure 1 minute 30, avec juste 4 formes géographiques, 2 triangles, dont un gros, un rond et un rectangle assez grand. Et il nous faut que quelques secondes pour finalement interpréter et donner des intentions, des humeurs à ces objets.
Exactement, c'est une expérience fondatrice. C'est qu'en fait, effectivement... Et on le voit bien dans les cas extrêmes, on vous voyait un rond, un carré, un triangle qui se déplace, mais de manière irrépressible, au bout de quelques secondes, vous voyez, vous percevez en vous une histoire qui attribue et qui projette des significations, voire même des genres sexuels, des relations affectives entre ces formes géométriques. Et on peut voir que cette naissance de la fiction vient de vous, parce qu'il y a des situations dans lesquelles la fiction n'opère pas correctement ou n'opère plus du tout. Dans certaines maladies psychiatriques ou neurologiques, eh bien, il y a des désordres de ces mécanismes de fiction, d'attribution de sens qui viennent de nous.
Et heureusement, le sens que l'on donne à ces choses que l'on interprète face à nous, ce sens n'est pas figé. On peut un jour y voir quelque chose et le contraire le lendemain.
Exactement.
Nous sommes un peu des sophistes.
Et oui, absolument. Il y a également une sorte d'aller-retour permanent. Et il faut bien comprendre qu'il y a des processus non conscients. La plupart des processus de ce cinéma intérieur, nous n'y avons pas accès consciemment. Nous n'avons pas une introspection simple de cela. Mais lorsque nous prenons conscience de quelque chose qui a été interprété dans les coulisses de notre cinéma intérieur, eh bien, nous avons dans une certaine mesure la possibilité de modifier de manière. Et donc, il y a une sorte de farandole, de danse, de celui du contenu de notre conscience. Ce flux de conscience qui vient en permanence modifier les choses et le sens que nous leur attribuons.
Professeur Nakache, vous dites que avant le cerveau, il y a les yeux. Alors comment ça se passe, par exemple, pour des non-voyants ?
Oui, alors c'est une grande question que j'aborde également, c'est qu'en réalité, j'utilise les yeux parce que une manière pédagogique est de bien rentrer dans cette théorie de la subjectivité, notamment pour la perception, c'est qu'entre ce qui se passe, si vous comparez ce qui se passe dans la rétine avec ce que vous percevez, eh bien l'écart entre les deux vous donne tous les effets spéciaux du cinéma, par exemple la colorisation de l'image en périphérie, l'invention de ce qui se passe dans les trous de la rétine, tout ça nous donne lieu de voir toute la mécanique du cinémateur qui vient de votre cortex en réalité.
Et c'est le cortex qui corrige finalement les distorsions de la rétine.
Ou qui à partir de ce que la rétine lui donne et à partir des autres connaissances dont nous disposons, permet de produire, en fait, et vraiment, cette métaphore fonctionne assez bien. Il y a de la colorisation, une sorte de technicolor du cinéma intérieur. Il y a également des cuts, il y a des effets spéciaux, il y a des effets de nuit américaine. Il y a plein de choses. Donc la métaphore, on peut la pousser assez loin parce qu'elle nous permet vraiment de donner sens à cette façon de laquelle nous co-créons le monde que nous percevons avec le monde qui est là et avec nous. Et comme nous sommes dans le monde, nous co-créons également l'image que nous avons de nous-mêmes. Ça, c'est un élément important. Oui.
Lionel Nakache, Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience. Votre livre paraît chez Odile Jacob. Si on extrapole à la sphère sociétale, est-ce que ce cinéma intérieur, notre boîte crânienne qui interprète tout ce que l'on a sous les yeux et qui nous fait interpréter la réalité, est-ce que ça va jusqu'à influencer vraiment nos choix de vie et même notre bulletin de vote ?
Ah oui, évidemment. Et c'est un élément, ce que vous signalez, qui est très important, c'est que ces fictions, il ne faut pas les voir comme clivées du monde. Ces fictions font partie du monde, font partie de la nature. Donc en réalité, elles ont directement un rôle causal sur ce qui arrive. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle il est très important, non pas de lire mon livre, mais de prendre conscience de cette couche de fiction.
C'est-à-dire qu'il y a autant de monde qu'il y a de personnes qui la vivent. On voit bien en ce moment qu'il y a deux mondes qui s'affrontent, si ce n'est pas trois, quatre ou cinq. Nous sommes dans un durcissement même de ces relations. Ça remonte toujours au même endroit, ce cinéma intérieur, tout remonte là, oui, même dans ce que nous vivons de la façon de la plus dramatique.
C'est ce que je pense, et que je n'ai pas la solution, mais une des solutions importantes, c'est de faire ce pas de côté, de prendre conscience qu'effectivement, ce que vous percevez du monde, c'est une construction que vous avez, c'est pas le monde qui est directement là. Et que cette interprétation que vous avez du monde, elle peut différer entre les personnes. Donc je veux dire que cette couche-là, c'est la première couche également d'une possibilité de tolérance. C'est pas le seul message, et ça ne suffit pas à assurer une tolérance, mais c'est un mécanisme fondamental pour arriver à comprendre au nom de quoi ce que je pense et ce que vous pensez d'une même situation va être un peu en décalage parfois.
Et dans un couple, par exemple, si on se fait le même cinéma, est-ce qu'on a plus de chances de s'entendre ?
Ah, écoutez, je ne suis pas conseiller conjugal, je ne sais pas, mais en tout cas...
Non, mais vous travaillez beaucoup avec votre femme.
Absolument, hein, absolument, alors, exactement, vous avez tout à fait raison. Et on s'était intéressé à Parlez-vous cerveau, justement, d'essayer de diffuser ces informations sur le cerveau en s'entendant sur les mots. Mots. Alors, ce que je crois, c'est qu'il y a une dimension de jeu, J-E-U, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes conscient de que ce que vous percevez, c'est justement une sorte d'œuvre de fiction au sens de construction, bien vous pouvez faire ces pas de côté pour arriver à voir comment vous pouvez les moduler, les modifier, notamment s'il y a des situations, comme Éric Delvaux le cite, de conflit, cette fois-ci pas seulement conjugal, mais sociétal. Comment est-ce qu'on peut arriver, en réalité, à utiliser ce décalage entre le monde et ce que nous en percevons pour arriver à se comporter de manière peut-être plus ouverte, avec un peu plus de jeu, moins de rigidité peut-être.
Ouais. Alors dans votre livre, ce cinéma intérieur, Lionel Nakache, vous nous confiez un peu comment vous l'avez écrit, et notamment avec de la musique sur les oreilles.
Non, ça vous devait avoir l'air chouette.
En préparation en tout cas. Pourquoi le choix des musiques de Lully et des Western Spaghetti de Sergio Leone, le réalisateur ?
Oui, écoutez, c'est la stricte vérité. Je l'ai écrit, ce livre, pas pendant le Covid, je l'ai écrit l'été dernier, l'été 2019, notamment pendant le mois d'août, où c'est là que j'ai écrit la première version de ce livre. Alors, mon essai précédent, ça Nous sommes tous des femmes savantes. Et comme ça se passait à l'époque de Molière, en tout cas j'explorais ça, et pour garder un lien affectif avec ce Paris de l'époque de la cour de Louis XIV de Molière, donc Lully qui avait écrit la plupart des ballets ou des pièces aussi de Molière, de la version musicale.
L'arrivée des Turcs.
Voilà, exactement. Donc j'ai écouté pour garder ce lien et il s'avère que je suis tombé à une sorte d'addiction pour Lully que je connaissais peu mais que j'appréciais pas de manière.
Mais vous êtes abstrait du monde pendant ce temps-là.
Non, abstrait du monde. Non, c'est simplement dans. Oui, en tout cas, c'est la musique, c'est la bande originale de mon film intérieur pendant que j'écrivais ce film. Et alors, effectivement, j'ai pas la réponse, mais j'ai observé que j'ai eu cette transition vers les génériques de Sergio Leone. Et la façon de laquelle je l'ai compris, c'est que il y a évidemment un panache fou dans la musique de Lully. Et je trouve qu'il y en a un aussi dans ces films-là. Et ces films, en écrivant le cinémateur, je me suis rendu compte que ces duels, vous savez, ces duels existentiels, on sait même plus pourquoi ils sont en duel. On oublie. Mais simplement, ce dont on se souvient, c'est qu'il y a ces yeux, ces perdus qui se regardent en gros plan, extatique, comme ça, pendant des heures, avec cette musique de fond. Et c'est quelque chose qui vient vous dire, en fait, in fine, à la fin, en fait, ça va être ton cinéma intérieur ou le mien. Il n'y a pas de place pour les deux. Et donc, il y a quelque chose d'existentiel dans ces films-là qui vient capturer quelque chose de cinéma intérieur.
Le cinéma, c'est la vie. Et vice-versa, comme disait Sergio Leone.
Exactement, le cinéma c'est la vie c'est le cinéma.
Je voudrais revenir, on a commencé cette interview avec la situation dans les hôpitaux en France. Je voudrais qu'on y revienne ce matin avec ces propos d'un de vos collègues à la Salpêtrière, le professeur Alexandre Carpentier, qui est chef du service de neurologie, de neurochirurgie à l'hôpital de la Salpêtrière. Lui dit que empêcher un virus de circuler est une illusion. Plus de 60% de la population sera atteinte, quelles que soient les méthodes de coercition. Vous signez, vous co-signez?
Non, je ne sais pas exactement. Je m'oppose pas non plus à cette affirmation. Juste, je n'ai pas les moyens d'y répondre. Mais ce qui me semble essentiel dans le propos que vous rapportez de mon collègue, c'est qu'en réalité, quand bien même une partie importante de la population va être contaminée, et puis évidemment, la plupart vont heureusement faire des formes bénignes, le point, c'est évidemment cette histoire de pic ou d'écrètement ou de pente. Ça veut dire que si ces 60% surviennent d'une période suffisamment lente et longue pour permettre en réalité de prendre en charge les patients qui vont vraiment avoir besoin de réanimation, c'est ça la différence. Versus si tout cela débarque en quelques semaines où on sera totalement débordé, c'est une évidence et c'est ça qu'il faut éviter.
Ouais, si le confinement des premières semaines a été salutaire pour organiser la prise en charge hospitalière des malades, il faut désormais, dit votre confrère le professeur Alexandre Carpentier, il faut désormais mettre fin à cette médecine sanitaire préventive de groupe qui paralyse la France entière. C'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de vos collègues professeurs.
Écoutez, je ne sais pas, moi j'ai un peu le nez dans le guidon, c'est-à-dire que j'essaie de m'occuper des patients dont je m'occupe, de faire les recherches que j'essaie de faire, de continuer. Donc j'ai les éléments, il me semble important de faire la différence entre les éléments factuels très forts, et c'est ceux certains qu'on a voulu rappeler, et puis ensuite les interprétations ou les solutions qu'on peut développer autour de ça, et ça c'est une autre couche, c'est une autre difficulté, et je pense qu'une des difficultés c'est de ne pas confondre les deux, c'est-à-dire qu'en réalité il faut d'abord...
Pas confondre les deux,
c'est-à-dire... le périmètre des faits, quels sont les faits et quels sont le problème qu'on doit essayer de résoudre, donc de ne pas confondre les données du problème et les solutions qu'on veut essayer d'apporter. Donc les solutions, moi je suis extrêmement... j'ai pas de connaissances épidémiologiques suffisantes pour avoir vraiment... Et c'est pas pour me défausser que je vous dis ça, hein.
Non, mais c'est un raisonnement scientifique.
Voilà, et de dire on a des faits, les faits, voilà, c'est que vous avez un flux de patients qui arrivent et que la seule chose qui est certaine, c'est qu'il faut essayer d'éviter ce débordement, que ce débordement sinon nous fait basculer d'une médecine humaine à une médecine qui perd ses critères d'humanité de la médecine. Et c'est ce point-là qui est pour moi le plus préoccupant. Voilà.
Lionel Nakache, professeur Nakache, votre livre, donc Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience. Ce n'est pas toujours technique, ça se lit finalement assez bien et il y a des reports aussi pour les vidéos et autres exemples très parlants, notamment celui de la diligence. On a tous connu l'expérience de la diligence dont on voit les rayons tourner à l'inverse de la réalité et cette interprétation, et vous l'expliquez tout au long de ces 250 pages. Merci beaucoup, professeur Nakache, d'être venu en parler ce matin sur France Inter.